Chapitre 20. Pendant tout le temps qui précéda son mariage, le capitaine Winstanley ne laissa rien paraître de ce qu'il savait sur l'esprit de révolte de Violette Tempest. Il ne semblait même pas soupçonner qu'il lui fût antipathique. Il la regardait et lui parlait aussi doucement que si la plus grande amitié eût régné entre eux. Toutes ses actions dénotaient la plus parfaite aménité. Et déjà, cependant, il soumettait insensiblement toute chose à son autorité, qu'il étendait dans toutes les directions. Des changements avaient déjà été opérés dans les jardins, et Violette savait qu'ils étaient de son fait, quoique Mrs. Tempest passât pour les avoir inspirés. Il s'était peu à peu emparé des écuries, ses deux chevaux de chasse y étaient déjà installés. Vixen les voyait lorsque, chaque matin, sa corbeille de pain au bras, elle allait faire sa distribution à ses favoris. C'étaient de longues bêtes à l'air affamé. Les grooms disaient qu'ils mangeaient énormément et n'étaient jamais rassasiés. Quand ils ont mangé leur avoine, ils mangent leur foin. Quand ils n'ont plus de foin, ils mangent leur litière. Puis ils mordillent le bois de leur cloison. Je n'ai jamais vu de pareilles brutes, gémissait Bates, le premier groom. Violette trouvait à ces animaux quelque ressemblance avec leur maître. Un matin que Violette était appuyée contre la petite porte de la stalle d'Arion, se donnant le plaisir de caresser quelques instants son favori, le capitaine Winstanley entra dans l'écurie. « Bonjour, Miss Tempest, vous caressez votre favori. Je crois que vous le gâtez. Vous le mènerez à la chasse au mois d'octobre prochain. Je ne chasserai plus jamais. »« Bah, à votre âge, le mot « jamais » n'a pas de saison. » C'est le plus gentil cheval de chasse de la forêt. S'il était fatigué, vous pourriez monter un des miens. « Merci, » dit Vixen, fronçant le sourcil et lançant un regard peu flatteur au plus efflanqué des chevaux du capitaine. « Il me semble que si j'étais perché là-dessus, je serais séparé du reste du monde. »« Oh, à propos, » dit Winstanley en ouvrant la porte d'une stalle, « que ferons-nous de ce camarade ?» Ce camarade était un beau bai, grand air, forme superbe, jambes courtes, tête de cheval de guerre. Une caresse du capitaine lui fit pousser un hennissement indigné, et, dressant sa splendide crinière, il semblait protester contre tant d'impertinence. « Je ne sais pas de qui vous parlez quand vous dites « nous », » riposta Vixen d'un ton sec. « Mais naturellement, de votre mère et de moi. » « J'aimerais à vous comprendre dans cette appellation, à vous mettre entière dans nos arrangements présents ou futurs, mais vous paraissez préférer faire bande à part. »« Oui, » répondit Vixen, « je préfère rester seul. » »« Très bien alors, je répète ma question, quoique vous décliniez le droit d'émettre votre avis dans nos arrangements. »« Cela ne vaut pas la peine de vous ennuyer à ce sujet. Mais enfin, qu'allons-nous faire de ce camarade ?» « Du cheval de papa ?» s'écria Vixen. « De celui qu'il montait le jour de sa mort ? Mais le garder, évidemment !»« Ne croyez-vous pas que ce serait une folie ? Personne ne le monte. Il prend tout le temps d'un homme pour le soigner et le promener. Autant vaudrait garder un éléphant blanc dans l'écurie. »« C'était le favori de mon père, » dit Vixen, dont les yeux voilés laissaient échapper des larmes de colère. « Je ne crois pas maman capable de s'en défaire. » « Je ne devrais cependant pas dire cela, d'après ce que je vois depuis quelques mois, » ajouta-t-elle plus bas. « Eh bien, ma chère Miss Tempest, rien de plus charmant que le sentiment de la famille, rien de plus délicat que le culte du souvenir. Je comprends très bien que vous et votre maman soyez désireuses d'assurer au cheval de votre père un bon gîte et un bon maître. Mais je ne puis croire que votre mère soit assez folle pour garder un cheval qui n'est utile à personne. » Si l'animal était de corpulence un peu plus légère, il me serait égal de le monter et d'en vendre un des miens. Mais il est beaucoup trop lourd pour moi, ce cheval de roulage. » Violette donna une dernière caresse à Arion et quitta l'écurie sans ajouter un mot. Elle alla directement au boudoir de sa mère. La veuve était assise devant une table couverte de sachets, de mouchoirs et de boîtes à gants, absorbé dans l'examen de ses futilités, aidé par la fidèle Pauline, qui s'habillait plus coquettement depuis que le mariage de sa maîtresse était décidé, et qui, par la même occasion, s'occupait de la formation de son propre trousseau afin d'entrer avec dignité dans sa nouvelle existence. Nous recevrons plus de monde, j'en suis sûr, avec un jeune et joyeux maître comme le capitaine, avait-elle dit en confidence à Mrs. Trimmer. Ah, oh, je ne pourrai jamais me faire aux gants de Suède. Ils ont beau être à la mode, ils ne sont pas de mon goût. Enfin, il faut les porter quand même, disait Mrs. Tempest au moment où Vixen s'élançait dans la chambre. Maman, s'écria Vixen, le capitaine Winstanley voudrait vous faire vendre Bullfinch. Si vous le laissez faire, ce serait une indignité. Après quoi, Vixen quitta la pièce aussi subitement qu'elle y était entrée, et en tirant violemment la porte derrière elle. Le temps qui amène tout amena la veillée des noces de Mrs. Tempest. Le trousseau, objet de tant de préoccupations, chef-d'œuvre de combinaison dans sa modestie étudiée, était au complet. Les robes de voyage emballées dans deux grandes malles de cuir, prêtes à partir pour les excursions en Écosse. Un sac de voyage tout neuf, avec un chiffre en corail rose sur une plaque d'argent, cadeau du capitaine Winstanley, occupait la place d'honneur dans le boudoir de Mrs. Tempest. La robe de noces en brocart crème garnie de points à l'aiguille, et un chapeau en dentelle occupait la meilleure place sur le sofa. Tout dans l'appartement de Mrs. Tempest témoignait du grand événement qui allait changer son existence. Des yeux gonflés et un teint pâle indiquaient que l'héroïne du lendemain s'était laissée aller à pleurer. « Oh, madame, vos yeux seront rouges demain !» dit Pauline, entrant dans la chambre avec une élégante petite boîte nouvellement arrivée, qu'elle présenta à sa maîtresse tout en larmes. « Laissez-moi vous servir une tasse de thé. » « Oui, vous pouvez m'en donner, » répondit Mrs. Tempest, qui, pendant ses jours d'agitation, avait fait une continuelle absorption de ce breuvage pour soutenir son tempérament énervé. « Je me sens horriblement laide ce soir. »« Effectivement, madame, vous ne paraissez pas à votre aise. Je sais qu'à votre place, si ça ne me plaisait pas de l'épouser, je n'en ferais rien. Il n'est jamais trop tard pour une femme de changer d'idée, même à l'église. » « Cela s'est déjà vu. Je ne l'épouserai pas, moi, madame, si au dernier moment je ne le trouvais pas à mon goût, » conclut énergiquement la femme de chambre. « Ne pas l'épouser, Pauline, lui si bon et si noble, si dévoué, si désintéressé. » Mrs. Tempest aurait pu prolonger à l'infini la liste de ses vertus si la servante ne l'eût arrêtée un peu brusquement. « Eh bien, madame, si vous l'aimez tant et qu'il soit si bon, pourquoi pleurer ?» « Vous ne comprenez pas, Pauline. Dans de pareils moments, il vous vient de tristes pensées. Je songe naturellement à mon cher Edward, le meilleur et le plus généreux des hommes. Au mois de juin dernier, 20 ans s'étaient écoulés depuis notre mariage. Quel enfant j'étais alors! Je ne savais rien du monde, Pauline. J'avais un trousseau splendide, mais je crois que si nous regardions aujourd'hui ces robes d'autrefois, nous les trouverions ridicules. » On n'avait pas d'idée là-dessus alors, on n'y entendait rien. Cher Edward, c'était un des plus beaux hommes que j'ai jamais vu. Comment Violette a-t-elle pu supposer que je vendrais son cheval ? Mais madame, le capitaine Winstanley lui en a parlé, alors naturellement... Le capitaine Winstanley ne me fera jamais faire ce qu'il ne me plaira pas de faire. Le capitaine Winstanley n'avait plus dit un mot de Bullfinch depuis la conversation qu'il avait eue dans l'écurie avec Vixen. Le noble animal occupait toujours sa stalle, et tous les jours il était choyé et caressé par sa jeune protectrice, qui l'emmenait parfois galoper à travers la forêt. Mrs. Tempest avait dîné dans sa chambre, ou plutôt n'avait pas dîné pour son dernier jour de veuvage. Le capitaine avait des affaires à régler à Londres. Il devait revenir par le dernier train. On n'avait pas fait de contrat. Le capitaine n'avait rien à stipuler. Et Mrs. Tempest avait trop confiance en son futur mari pour tenir à s'entourer de précautions légales. N'ayant qu'un intérêt viager dans le domaine, Elle n'avait rien d'autre à léguer que les 1000 brimborions, les objets de luxe dont le baronnet lui avait fait présent pendant le cours de sa vie. « C'est une journée bien fatigante, » disait Mrs. Tempest, quoiqu'elle fût continuellement distraite dans ses pensées par l'arrivée de quelque nouvel accessoire, de quelque bagatelle élégante arrivée par le dernier train. Les hiboux criaient dans la forêt, leurs cris monotones rompaient de temps en temps le silence de la nuit comme une prophétie de malheur. Le mariage allait avoir lieu dans quelques heures, et cependant Vixen n'avait montré aucun signe de soumission. Madame Théodore avait envoyé la robe, Pauline l'avait étalée sur une chaise, dans un désordre artistique qui faisait valoir les nuances combinées avec goût du bleu ciel et du ton crème. Mrs. Tempest la contemplait d'un œil pathétique. « C'est tout simplement parfait, » s'écria-t-elle. « Cette Théodore n'a pas sa pareille. Le bleu n'est pas trop foncé, et comme les draperies tombent gracieusement. Et le chapeau de Van Dyck est-il assez bien réussi? Et comme il ira bien à Violette ? Si j'étais une mauvaise mère, je ne prendrais pas tant de peine à lui choisir moi-même une toilette élégante. Mais je me suis toujours intéressée à ses robes. Même lorsqu'elle était toute petite, je me préoccupais de son élégance, et aujourd'hui, elle me récompense de tous mes soins en refusant d'assister à mon mariage. C'est affreux. » La pendule sonna minuit. Le cri de l'oiseau de nuit semblait sortir plus strident et lugubre du fond des bois épais. Et la patiente Pauline, qui, toute la journée, avait emballé en dépit de la tristesse de sa maîtresse, commençait à bâiller piteusement. « Si maintenant, madame, vous me laissiez brosser vos cheveux, » dit-elle enfin, « je pourrais aller me mettre au lit, je désirerais me reposer pour demain matin. »« Vous êtes fatiguée, » questionna Mrs. Tempest d'un air étonné. « Mais, madame, il est très fatigant d'emballer toute une journée, et il est minuit passé. Vous pouvez vous en aller, je me coifferai de nuit moi-même. »« Non, madame, je ne souffrirai pas cela, vous auriez mal au bras. Il faut vous coucher le plus promptement possible, ou demain vous aurez le teint fatigué et les traits tirés. » Ce mot alarma Mrs. Tempest. Elle n'eut pas dédaigné ce jour-là de paraître pâle et intéressante, comme une femme qui a passé la nuit à pleurer, mais les traits tirés, cela suffirait à la vieillir, à souligner son âge, et elle voulait être jeune, puisqu'elle prenait un mari plus jeune qu'elle de plusieurs années. En conséquence, elle permit à Pauline de commencer sa toilette de nuit. Ses cheveux furent soigneusement brossés, la veilleuse fut allumée, et Pauline laissa sa maîtresse assise devant son miroir, enveloppée dans son peignoir blanc, toute pâle et toute gracieuse, absorbée dans de profondes rêveries. Elle resta ainsi quelque temps après le départ de Pauline. Puis elle regarda avec inquiétude à la petite montre placée devant elle. 1 heure moins le quart. Violette devait être couchée depuis longtemps, à moins que, comme sa mère, elle ne se sentît trop malheureuse pour pouvoir dormir. Tout à coup, Mrs. Tempest fut saisie du désir de voir sa fille. « Comme c'est mal à elle de n'être pas venue me souhaiter le bonsoir, surtout pour cette nuit, » pensa-t-elle. Qu'a-t-elle fait toute la journée? Probablement courir dans la forêt, faisant ses amis des chiens, des chevaux, des bohémiens, des charbonniers. Puis, après une pause, elle se demanda, tout agitée, « Que dira le monde si ma fille n'assiste pas à mon mariage ?» L'idée d'une calomnie possible la blessa. Elle se leva, allant et venant dans la chambre, se plaignant intérieurement de la Providence. Avoir une fille aussi rebelle, c'était plus horrible que la morsure d'un serpent. Ce n'est pas que tout ce temps se fût écoulé sans que l'on eût fait de nombreuses tentatives pour amener Violette à de meilleurs sentiments. Mrs. Tempest avait longuement conféré là-dessus avec la femme du vicaire. Chapitrée par celle-ci, Violette était restée inébranlable. Alors M. Scobel avait entrepris la tâche. S'armant de l'autorité de son saint ministère, il avait supplié Violette d'abandonner son antipathie, indigne d'une chrétienne, pour devenir une fille douce et soumise. Est-il indigne d'une chrétienne de haïr l'homme qui usurpe la place de mon père ? Demanda Violette sèchement. Une chrétienne ne doit haïr personne, et vous n'avez pas le droit d'appeler le capitaine un usurpateur. Vous n'avez aucune raison de prendre le mariage de votre mère tant à cœur. Elle ne commet pas une mauvaise action, quoique, à mon avis, une femme se conduise plus dignement en restant fidèle à son premier amour. Les arguments de M. Scobel n'eurent pas plus d'effet que ceux de sa femme. Au fond, il partageait les sentiments de Violette. Il avait aimé le baronnet et il considérait le second mariage de Mrs. Tempest tout au moins comme une folie. Aussi est-ce sans entrain ni plaisir qu'il présida à la décoration de son église en vue de la cérémonie. Si seulement elle était éveillée, pensait Mrs. Tempest, je ferais un second appel à ses sentiments, son cœur ne doit pas être de pierre. Elle prit une bougie et se dirigea vers la chambre de Violette, à la porte de laquelle elle frappa doucement. « Entrez, » dit la voix bien éveillée de la jeune fille. « Ah !» pensa Mrs. Tempest, triomphante. « Tout obstinée qu'elle est, elle sait qu'elle fait mal. Sa conscience ne la laisse pas dormir. » Violette était debout devant la fenêtre, les bras appuyés sur la large balustrade en bois, regardant le ciel étoilé. La lune était voilée par de petits nuages. « Pas couchée, » lui dit sa mère avec douceur. « Non, maman. Qu'avez-vous fait ce soir ?»«
Je ne sais pas, j'ai réfléchi.
Et vous n'êtes pas venu me dire bonsoir.
Je ne savais pas si vous désiriez me voir. Je vous croyais occupée à faire vos paquets pour votre voyage. »«
Ce n'est pas bien, Violette. Vous auriez dû vous dire que cette nuit, j'avais de tristes pensées. »«
Je n'en savais rien, sinon j'aurais déploré que ces tristes pensées ne fussent pas venues un peu plus tôt. »
« Violette, vous êtes dure et froide comme glace, » dit Mrs. Tempest avec une fiévreuse agitation. « Non, maman, je suis capable d'aimer avec ardeur. J'ai pensé toute cette nuit à mon pauvre père, dont la place sera usurpée demain. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi obstinément méchant. Je n'aurais pas cru ma fille capable d'un pareil entêtement. Je vous croyais le cœur bon, Violette. Et cependant, vous ne craignez pas de me rendre malheureuse le jour de mon mariage. » « Pourquoi seriez-vous malheureuse, maman ? Parce que je préfère ne pas assister à votre mariage ? Si je m'y trouvais, ce serait comme la mauvaise fée au baptême d'une princesse. Je regarderais tout d'un mauvais œil. » Mrs. Tempest se jeta dans un fauteuil et fondit en pleurs. L'orage de chagrin qui toute la journée avait couvé dans son esprit troublé éclata tout à coup en un torrent de larmes. Elle n'aurait pu donner aucune raison à sa douleur. Mais subitement, à la veille de ce jour qui devait changer toute son existence, la peur la saisit et elle se mit à trembler. « Vous êtes cruelle pour moi, Violette, » disait-elle en sanglotant. « Je suis la plus malheureuse des femmes. » Violette s'agenouilla doucement auprès d'elle et lui prit la main, tout émue de pitié. « Chère mère, pourquoi êtes-vous si malheureuse ? » dit-elle. « Si vous agissez ainsi, c'est parce que l'acte que vous allez accomplir vous convient, ou alors, si vous avez cédé par faiblesse, il n'est pas trop tard pour vous dédire. »«
Non, chère maman, il n'est pas trop tard, même maintenant. »«
Partons toutes les deux dès le petit jour, allons en Espagne, en Italie, où vous voudrez, laissant une lettre au capitaine Winstanley pour lui apprendre que vous changez d'avis. »« Il ne pourra rien nous faire. » Vous avez le droit de vous refuser, même au dernier moment. « Ne dites pas de sottises, Violette, » dit Mrs. Tempest avec humeur. « Qui vous dit que j'ai changé d'avis ? Je suis aussi attachée à Conrad qu'il l'est à moi. Je serais une misérable sans cœur si je le repoussais au dernier moment. Mais cette journée a été très douloureuse pour moi. Votre méchanceté me brise le cœur. Maman, je n'ai nulle envie d'être méchante. » Mais ma présence à votre mariage serait un mensonge. Je paraîtrais donner mon approbation à un acte qui m'est odieux. Je ne puis me décider à faire cela. Et vous m'humilierez par votre absence. Vous ne vous préoccupez pas de ce que le monde dira de moi.
Personne ne s'inquiétera de mon absence. Vous serez la reine du jour. Tout le monde s'inquiétera, tout le monde parlera. Je connais toute la malice des gens, même des amis les plus intimes. Ils diront que ma fille m'a tourné le dos le jour même de mon mariage. Ils ne pourront pas dire cela, car je resterai ici, chez vous. » Mrs. Tempest continuait de pleurer. Ses larmes paraissaient inépuisables. Elle en était arrivée au point de ne plus pouvoir s'arrêter. « Quelle figure je ferai demain ? » murmura-t-elle. Et ce fut tout ce qu'elle put dire pendant quelques instants. Violette allait et venait dans la chambre, comme en détresse. Triste et indécise, voir le chagrin de sa mère, avoir le moyen de la consoler et lui refuser cette consolation. Cela n'était pas d'une fille, mais sa mère n'avait-elle pas perdu tout droit à son obéissance ? Leur cœur et leur existence n'étaient-ils pas complètement séparés par le mariage du lendemain ? Pour Violette, dont la nature était ferme et forte, il semblait qu'elle fût elle-même la mère offensée et outragée par la sottise d'un enfant. L'enfant était là, suppliant et implorant son pardon. C'était le renversement complet des rôles. Son cœur fut touché par la vue de la faiblesse de sa mère et par la muette prière de ses larmes. « Qu'est-ce que cela peut me faire, après tout, d'être présente ou absente ?» se dit-elle enfin. « Je n'empêcherai pas cet homme de venir prendre possession de la maison de mon père. Je ne puis prévenir cet outrage à sa mémoire. Ma mère a été trop bonne pour moi, et je n'ai personne au monde à aimer. » Elle continua de marcher quelques instants, puis s'arrêta devant la chaise de sa mère. « Serez-vous réellement plus heureuse, maman ?» de me voir assister à votre mariage. Cela me rendra complètement heureuse. Eh bien, j'irai, mais rappelez-vous que je ressemblerai à la mauvaise fée, je ne puis empêcher cela. Vous serez belle, Théodore vous a envoyé la toilette la plus exquise qu'il soit possible de rêver. Venez dans ma chambre l'essayer, dit Mrs. Tempest, séchant ses larmes, et instantanément calmée, comme un enfant qui, à force de pleurnicher, vient d'obtenir ce qu'il souhaitait. « Non, chère maman, pas cette nuit, je suis trop fatiguée. »« Qu'importe, ma chère, Théodore vous habille toujours dans la perfection. Couchez-vous tout de suite, ma chérie. La robe vous sera demain matin une agréable surprise. Bonne nuit, mignonne, vous me rendez bien heureuse. »« J'en suis contente, maman. »« Je voudrais que vous vinssiez en Écosse avec nous, » Violette frissonna. « Je crains que vous ne vous ennuyiez horriblement ici. »« Non, maman, j'aurai mes chevaux et mes chiens. »« Vous êtes une fille si extraordinaire. »« Eh bien, bonne nuit, mignonne. Vous êtes toujours ma chère Violette. » Et elle sortit toute consolée, tout en jetant un coup d'œil d'inquiétude dans la glace qui reflétait son visage pâle et ses yeux tout gonflés de larmes. « Je crains bien d'être affreuse demain, » dit-elle. Le soleil du matin est si indiscret et si traître.